Chapitre 33. Rue de la Carpe Bleue. Assise en tailleur sur le lit, une position pas si confortable que ça avec une jupe d'équitation, Mine faisait rouler un de ses couteaux sur le dos de sa main. Un truc qui ne servait absolument à rien, dixit Tom, mais qui se révélait pourtant utile, dès qu'il s'agissait d'attirer l'attention des gens. Au milieu de leur chambre, occupée à examiner son épée, ou plutôt la façon dont il avait coupé les liens censés lui interdire de la dégainer, Rand ne s'intéressait pas le moins du monde à la jeune femme. Sur ses avant-bras, les dragons rouges et or brillaient sinistrement.
« Tu admets que c'est sûrement un piège, »
grommela Mine.
« Et l'âne est aussi de cet avis. Au fin fond du monde, à Seleysin, une chèvre à demi aveugle est trop maligne pour foncer tête baissée dans un traquenard. Tu connais le dicton. Seul un fou embrasse des frelons ou avale du feu. Quand on sait qu'il existe, un piège n'en est plus vraiment un. »
répondit distraitement Rand, en ajustant l'alignement de deux fils.
Parce qu'on peut trouver un moyen de s'y précipiter sans tomber dedans.
De toutes ses forces, Mine lança son couteau, qui frôla la tête de Rand et alla se ficher dans la porte. Se souvenant de son dernier lancer, la jeune femme sursauta. Mais aujourd'hui, elle n'était pas couchée sur Rand, et Katsune ne risquait pas d'entrer. Mais que la lumière brûle ce sale type! Quand la lame avait taquiné sa joue, l'entrelac d'émotions dans la tête de Mine n'avait pas frémi. Un nœud dur comme du roc.
« Même si tu vois seulement Gedwin et Torval, tu sais bien que les autres seront cachés quelque part. Peut-être avec 50 tueurs à gages.
À Pharmading ?»
Rand détourna le regard du couteau et s'intéressa de nouveau à son épée glissée au fourreau.
« Mine, je doute qu'il y ait deux mercenaires en ville. Crois-moi, je ne compte pas me faire tuer. » Si je ne vois pas comment déclencher le piège sans me faire coincer, je ne prendrai aucun risque.
Rand était aussi peu angoissé qu'une pierre, et encore moins sensé. Il ne comptait pas se faire tuer? Mais qui avait une telle intention? Se levant, Mine ouvrit le tiroir de la table de nuit, et en sortit le fouet que maîtresse Kin fournissait dans chaque chambre, même occupé par des étrangers. Long comme le bras de Mine, le fouet avait un manche en bois et une lanière à trois queues.
Une bonne séance avec ça t'ouvrirait peut-être les poumons. Histoire que tu aies un peu plus de flair. »
Nineveh, Lan et Olivia choisirent cet instant pour entrer. L'ancienne sage-dame et son mari portaient leur manteau. Alors que sa femme avait retiré toute sa quincaillerie, à l'exception de la fameuse ceinture et d'un bracelet, Lan arborait son épée sur la hanche. Pendant qu'il refermait la porte, Nineveh et Olivia regardèrent avec de grands yeux Mine et son fouet levé. La jeune femme laissa tomber le douteux objet et d'un pied discret le poussa sous le lit.
« Nineveh, je ne comprends pas pourquoi tu laisses Lan faire ça. »
Une déclaration qui aurait mérité un ton ferme et déterminé. Hélas, c'était raté. Pourquoi les gens entraient-ils toujours au pire moment possible?
Parfois, une sœur doit se fier au jugement de son champion,
répondit Nineveh en retirant ses gants. Son visage impassible aurait pu appartenir à une poupée de porcelaine. Aes Sedai jusqu'au bout des ongles.
Il n'est pas ton champion, mais ton mari,
aurait voulu dire Mine.
Au moins, tu peux y aller avec lui. « Moi, j'ignore si mon champion m'épousera un jour. Et il a juré de me ligoter si j'essaie de le suivre. »
Non qu'elle ait beaucoup insisté sur ce point. S'il entendait se comporter comme un crétin fini, il y avait pour le sauver mieux à faire que d'essayer d'embrocher un ou deux types.
« Si nous devons le faire, berger, »
dit Lan.
« Autant profiter de la lumière du jour. »
Les yeux bleus du champion semblaient plus glaciaux que jamais. Captant le regard inquiet que lui lança Nineveh, Mine eut presque de la peine pour elle. Presque. Rand boucla son ceinturon d'armes par-dessus sa veste, puis enfila son manteau, capuchon baissé, et se tourna vers Mine. Ses yeux aussi froids que ceux de Lan, et ses traits tout autant figés, dans le lien, il n'était plus qu'un rocher constellé de veines d'or en fusion. Tenter de passer la main dans les cheveux teints en noir de son homme, puis de l'embrasser, tant pis pour le public, Mine se retint, croisa les bras, et leva le menton, pour exprimer clairement sa désapprobation. Elle ne comptait pas non plus qu'il meure ici. Et il n'était pas question qu'il croie pouvoir la plier à sa volonté en s'entêtant comme un âne batté. Rand n'essaya pas de la prendre dans ses bras. Hochant la tête comme s'il comprenait le message, il prit ses gants posés sur un guéridon.
« Je serai vite de retour, Mine. Après, nous irons voir Katsune. »
Dans la tête de Mine, les veines d'or continuèrent à briller, longtemps après que Rand fut sorti avec l'âne. Nineveh s'immobilisa, tenant la porte ouverte.
Je veillerai sur eux, Mine. Olivia, reste avec elle.
et assure-toi qu'elle ne fera pas de bêtises. »
L'image même d'une Aes Sedai digne est calme, jusqu'à ce que la façade se lézarde.
« Que la lumière les brûle ! Ils sortent déjà, ces crétins !»
L'ancienne sage-dame détala sans prendre la peine de fermer la porte. Alivia vint le faire.
« On joue pour passer le temps, mine ?»
Alivia s'assit sur un tabouret devant la cheminée et sortit quelque chose de sa poche.
« Un jeu de ficelle, ça te dirait ?»« Non, merci, Alivia. »
répondit mine. Pas vraiment surprise par l'enthousiasme presque enfantin de sa compagne. Rand se montrait très confiant au sujet d'Alivia et de ce qu'elle ferait dans l'avenir. Plus prudente, mine avait étudié l'ancienne Daman et fait des découvertes stupéfiantes. En surface, Alivia était une femme mûre, à la fois stricte et intimidante. Sur Ninévée, par exemple, elle avait un effet tétanisant. La seule personne au monde à qui elle pouvait dire « s'il te plaît ». Mais Alivia avait été forcée de devenir Daman à 14 ans, et sa passion pour les jeux d'enfants n'était pas sa seule bizarrerie. Même si seule une auberge pour roi et reine aurait pu s'offrir ça, Mine aurait voulu qu'il y ait une horloge dans la chambre. Faisant les 100 pas sous l'œil d'Alivia, elle compta mentalement les secondes, tentant d'estimer le temps qu'il faudrait à Rand et aux autres pour ne plus être en vue de l'auberge. Quand un délai raisonnable se fut écoulé, elle alla prendre son manteau. Alivia se leva, courut se camper devant la porte et croisa les bras. Dans ses yeux, Mine ne vit plus rien d'enfantin.
« Tu ne les suivras pas !»
dit-elle fermement, malgré son accent traînant.
« Ça provoquerait des problèmes. Et je ne peux pas permettre ça. »
N'étaient les yeux bleus et les cheveux blonds, Alivia ressemblait beaucoup à la tante Rana de Mine, une femme qui devinait toujours qu'elle venait de faire une bêtise et prenait toutes les mesures requises pour qu'elle ne recommence pas.
« Tu te rappelles nos conversations au sujet des hommes, Alivia ?»
Sa compagne s'en pourprend, Mine rectifia le tir.
« Non, pas celle-là. L'autre. Où nous disions qu'ils ne réfléchissent pas toujours avec leur cerveau. »
Bien souvent, Mine avait entendu des femmes se moquer d'autres femmes parce qu'elles ne connaissaient rien aux hommes. En revanche, avant Alivia, elle n'avait jamais rencontré une seule véritable ignare. Avant Alivia.
« Pour se fourrer dans la mouise, Rand n'a pas besoin de moi. Je vais voir Kat soigner. Et si tu essaies de m'en empêcher ?»
Mine brandit un poing. Après une longue réflexion, Alivia souffla.
« Laisse-moi prendre mon manteau et je viens avec toi. »
Dans la rue de la Carpe Bleue, il n'y avait ni chaise à porteur ni domestique en livrée, et les carrosses, comme les calèches, étaient bien trop larges pour cet étroit passage. Des deux côtés, parfois mitoyennes et parfois non, des maisons à deux niveaux aux toits d'ardoise s'alignaient comme de braves petits soldats. Les pavés étaient encore humides de pluie, et le vent continuait à malmener le manteau de Rand, mais les passants avaient ressorti le bout du nez. Trois gardes des rues, l'un avec une perche grappin sur l'épaule, ralentirent le pas pour examiner l'épée de Rand, puis repartirent. Visiblement satisfait. De l'autre côté de la rue, non loin de là, se dressait l'immeuble, à trois niveaux celui-là, plus un grenier, qui abritait la boutique du bottier Zeram. Un type squelettique et presque dépourvu de menton glissa la pièce de Rand dans sa bourse, puis utilisa deux longs bâtons pour prélever sur la grille de son brasero une petite tourte à la viande dorée à point. Le visage ridé, habillé comme un vagabond, le type avait noué ses cheveux en queue de cheval avec une lanière de cuir. Posant les yeux sur l'épée de Rand, il sursauta et les détourna vivement.
« Pourquoi m'interrogez-vous sur les bottiers ? Ici, je sers le meilleur mouton de la ville. La première conseillère en personne ne mange pas mieux. »«
Quand j'étais enfant, » murmura Loustérine, « les tourtes s'appelaient des pâtés en croûte. On les achetait à la campagne, puis... »
Faisant passer la tourte d'une main à l'autre, la chaleur se sentait à travers les gants, Rand réduisit le spectre au silence.
« J'aimerais savoir quel genre d'homme fabrique des bottes. » Par exemple, se méfie-t-il des étrangers? S'il n'a pas confiance en son client, un artisan ne donne pas le meilleur de lui-même.
Oui, maîtresse,
dit sans menton à une femme aux cheveux gris boulottes, dont un œil disait flûte à l'autre. Après avoir empaqueté quatre tourtes, il les donna à la cliente, puis prit les pièces qu'elle lui tendait.
Ce fut un plaisir, maîtresse,
ajouta le type.
Que la lumière brille sur vous.
La femme s'éloigna en silence et le vendeur, avant de se tourner vers Rand, fit une grimace dans son dos.
« Zeram n'est pas du genre méfiant, et s'il l'était, Milsa ferait tout pour qu'il cesse. Milsa, c'est sa femme. Depuis que leur dernier enfant s'est marié, elle loue le dernier niveau. Quand elle trouve quelqu'un qui veut bien être enfermé la nuit. Pour privatiser cet étage, elle a fait aménager un escalier, mais n'a pas voulu payer pour une nouvelle porte. Du coup, l'escalier débouche dans la boutique. » Et Milsa n'est pas confiante au point de la laisser ouverte la nuit. Mon bon seigneur, Tu comptes manger cette tourte ou attendre la fin des temps ?
Rand mordit dans la tourte, essuya le gras qui coula sur son menton et s'éloigna, gagnant l'auvent de la boutique d'un coutelier. Tout au long de la rue, des badauds achetaient de la nourriture aux marchands ambulants, des tourtes, du poisson frit ou des petits pois sautés en cornet. Trois ou quatre hommes, aussi grands que Rand, et deux ou trois femmes, qui dominaient d'une bonne tête la plupart des mâles, pouvaient être des aïeuls. Peut-être à cause de l'injonction du vendeur ambulant, ou simplement parce qu'il n'avait plus rien avalé depuis le petit déjeuner, Rand eut une envie pressante de dévorer la tourte et d'en acheter une autre. Loin d'y céder, il se força à manger lentement. Les affaires de Tzeram semblaient florissantes. La plupart avaient à la main une paire de bottes à ressemeler, des hommes entraient régulièrement dans la boutique. Même si Tzeram laissait monter les locataires sans trop les regarder, il pourrait sans doute identifier Gedwin et Thorvald sur les portraits, et peut-être même deux ou trois autres renégats. Si ces traîtres louaient le dernier niveau à l'épouse de Tzeram, la porte fermée la nuit ne devait pas les entraver beaucoup. Sur la gauche, une étroite allée séparait la maison d'un bâtiment à un seul niveau. Un saut dangereux. Sur la droite, en revanche, une maison mitoyenne à deux niveaux, le premier abritant le magasin d'une couturière, permettait de sortir sans peine. Sur les côtés, l'immeuble de Tzeram n'avait pas de fenêtre. Idem derrière. Rand avait vérifié en explorant l'allée où on jetait les déchets. Mais il y avait sûrement une trappe pour monter sur le toit en cas de besoin. De là, passer sur celui de la couturière ne présentait aucune difficulté. Ensuite, il suffisait d'en traverser trois autres pour atteindre une maison à un seul étage et sauter sans peine dans la rue ou dans l'allée sanitaire. En pleine nuit, la manœuvre ne présentait aucun risque. Le jour, il suffisait d'opter pour l'allée et de conserver un œil sur d'éventuelles patrouilles de garde des rues. La rue de la Carpe Bleue étant très sinueuse, le prochain poste de surveillance fixe était hors de vue. Deux hommes approchant de la boutique de Tzeram, Rand lui tourna le dos, et fit mine de s'intéresser à la devanture du coutelier, où étaient exposés des paires de ciseaux et des couteaux de cuisine. Un des hommes était grand, moins qu'un éventuel aïeul cependant. Aucun des deux ne portait une paire de bottes, et le vent, en soulevant leur manteau, dévoila l'épée que chacun arborait aux côtés. Malmené par le vent, la capuche du plus petit type se rabattit. D'un geste vif, il la releva, mais trop tard. Avec les cheveux noués sur la nuque par une barrette ornée d'une grosse pierre rouge, Charles Gedwin restait reconnaissable entre mille. Et puisque c'était lui, son compagnon devait être Thorvald. Rand aurait parié sa chemise là-dessus. Aucun des autres renégats n'était aussi grand. En regardant les deux hommes entrer dans la boutique de Tzeram, Rand récupéra quelques miettes de tourte sur ses gants. Puis il se mit en quête de Ninevé et de l'âne, et les trouva avant d'avoir fait assez de chemin pour ne plus apercevoir le commerce de Tzeram. L'échoppe du fabricant de bougies, qui lui avait paru un point possible pour sauter dans la rue, se dressait quelques pas derrière lui, une allée l'allongeant sur un côté. Devant, la rue tournait dans la direction opposée, et à moins de 50 pas se trouvait un poste de garde fixe avec un type perché dessus. Un bâtiment de trois étages, une menuiserie, jouxtait la boutique du cirier et empêchait de voir les toits au-delà.
« 6 ou 7 personnes ont reconnu Thorvald et Gedwin sur les portraits, » annonça l'âne. « Négatif pour tous les autres. »
Même si les passants ne leur accordaient pas un regard, le champion parlait à voix basse. Mais la vue de deux hommes armés sous leurs manteaux incitait plutôt les gens à accélérer le pas.
« Plus bas dans la rue, »
dit Ninevé.
« Un boucher dit avoir ses hommes pour clients. Mais il n'achète jamais plus que pour deux. »
L'ancienne sage-dame regarda l'âne comme si sa preuve était bien meilleure.
« Je les ai vus, »
dit Rand.
« Ils sont entrés chez le bottier.
Ninevé, peux-tu nous faire léviter jusqu'au toit de la boutique, l'âne et moi, en partant de l'allée de derrière ?»
Évaluant la maison de Tzeram, l'ancienne sage-dame tapota sa ceinture.
« Un à la fois, oui, et en utilisant plus de la moitié de ma réserve. Comme je ne pourrai pas remplir le puits, ne compte pas que je vous fasse redescendre.
Monter suffira, »
dit Rand.
Pour descendre, nous irons jusqu'au toit du fabricant de bougies.
Alors que les trois compagnons retournaient vers la boutique de Tzeram, Ninevé émit une cataracte d'objections. Quand l'idée ne venait pas d'elle, c'était toujours ainsi.
Donc je vous dépose sur le toit et j'attends, c'est ça ?
Marmonna-t-elle en regardant à droite et à gauche. Sous son regard, plusieurs passants jugèrent plus prudent de détaler. Une tigresse et deux hommes armés, voilà qui faisait vraiment beaucoup. Sortant une main de sous son manteau, Ninevé exhiba son bracelet incrusté de pierres roses.
Avec ça, je suis mieux protégé que par une armure. Si une épée me touchait, je la sentirais à peine. Je pensais entrer là-dedans avec vous.
Pourquoi faire ?
Demanda Rand.
Les tenir avec le pouvoir du puits pendant que nous les tuons? Les tuer toi-même?
Baissant la tête, la femme de l'âne observa mornement les pavés. Rand dépassa la boutique de Tzeram et se campa devant la maison la plus basse. Là, il regarda autour de lui, en s'efforçant d'en avoir l'air de rien. Pas de garde des rues en vue. Pourtant, il poussa sans perdre de temps Ninevé dans l'allée latérale. Avant de suivre Rothschild quelques jours plus tôt, il n'avait pas vu de garde non plus.
« Tu es bien silencieuse, » fit l'âne en emboîtant le pas à sa femme.
Sans se retourner ni ralentir, Ninevé fit trois pas de plus avant de répondre.
« Je croyais vivre une aventure. Affronter des suppôts des ténèbres, des achamans renégats. Mais vous allez les exécuter froidement, si c'est possible. Vous les abattrez avant qu'ils s'aperçoivent de votre présence, pas vrai ?»
Rand jeta un coup d'œil à l'âne par-dessus son épaule. Aussi perplexe que son compagnon, le champion secoua la tête. Bien sûr qu'il frapperait sans avertissement s'il le pouvait. Ce n'était pas un combat héroïque, mais une exécution, comme Ninevé venait de le dire. En tout cas, Rand espérait qu'il en serait ainsi. Sillonnée d'ornière, la charrette des éboueurs, l'allée de derrière était un peu plus large que le passage latéral. De ce côté, aucune maison n'avait de fenêtre. Qui aurait voulu d'une vue imprenable sur une décharge ? Ninevé contempla un moment l'arrière de la boutique, puis elle soupira.
« Tuez-les dans leur sommeil, si c'est possible. »
Un ton bien serein pour des propos si violents. Une force invisible souleva Rand et le fit léviter jusqu'au toit. Dès qu'il eut posé les pieds dessus, le harnais immatériel le libéra. L'ardoise étant très glissante, il préféra avancer à quatre pattes. Quand il eut rejoint Rand, l'âne adopta la même méthode et regarda en bas.
« Elle est partie, »
annonça-t-il. Se retournant, il désigna quelque chose.
« Notre porte d'entrée. »
Une trappe enchâssée dans l'ardoise avec des joints en métal pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans le grenier. Quand il l'eut ouverte, Rand se laissa glisser à l'intérieur. Restant un moment suspendu par les mains, il se décida et se laissa tomber souplement sur le sol. À l'exception d'une chaise bancale et d'un gros coffre rempli de poussière, la grande pièce était vide. À l'évidence, Tzeram avait cessé d'utiliser le grenier comme remise quand sa femme avait décidé de prendre des locataires. Sur la pointe des pieds, les deux hommes sondèrent le plancher, jusqu'à ce qu'ils découvrent une autre trappe. Étudiant les gonds, l'âne annonça qu'il n'était pas huilé, mais pas rouillé non plus. Rand dégaina son épée et hocha la tête. À ce signal, le champion ouvrit la trappe. Rand se laissa tomber, s'accrochant au rebord de sa main libre pour ralentir sa chute. Ignorant ce qu'il allait trouver, il se reçut souplement sur la pointe des pieds et découvrit une vaste pièce, qui semblait remplir la fonction d'un garde dévolu au grenier. Plusieurs armoires, des commodes, des coffres empilés, quelques tables avec des chaises renversées posées dessus. Au milieu de ce débarras, gisaient deux cadavres, qui semblaient avoir été tirés jusque-là et abandonnés, comme des détritus. Les visages noirs et gonflés étaient impossibles à identifier, mais le plus petit mort portait dans les cheveux une barrette d'argent, ornée d'une pierre rouge. Rejoignant Rand, l'âne baissa les yeux sur les cadavres et arqua un sourcil. Rien de plus. Pour le surprendre, il fallait bien davantage que ça.
« Fain est ici, » murmura Rand.
Comme si ce nom était un déclencheur, les deux plaies sur son flanc pulsèrent douloureusement. La plus vieille comme un disque de glace, l'autre tel un fer de lance chauffé au rouge.
« C'est lui qui a envoyé la lettre. »
Avec son épée, l'âne désigna la trappe. Pour lui, il était temps de filer. Mais Rand secoua la tête. Jusque-là, il avait brûlé d'envie de tuer les renégats de ses mains. À présent que Thorval et Gedwin étaient morts, et sans doute aussi Kisman, vu les cadavres boursouflés dont parlait le marchand à la roue dorée, l'identité de leur meurtrier lui était indifférente. L'important étant qu'il n'arpente plus ce monde. Et si quelqu'un d'autre que lui en finissait avec Dashiva, eh bien tant mieux. Fain, c'était autre chose. Avec ses trolloques, Fain avait dévasté le territoire de Deux-Rivières. Et c'était à lui que Rand devait une seconde blessure qui ne guérirait jamais. Si Fain était à portée de main, pas question de le laisser s'enfuir. Rand indiqua à l'âne de procéder comme dans le grenier, puis il alla se placer devant la porte de la remise, son épée tenue à deux mains. Quand le champion ouvrit le battant, il se rua dans une grande chambre éclairée par des lampes. Un lit à colonnes était installé contre le mur du fond, et des flammes crépitaient dans une petite cheminée. Les réflexes de Rand le sauvèrent de justesse. Captant un mouvement à la périphérie de sa vision, avec en plus la sensation que quelque chose frôlait un pan de son manteau, il pivota sur lui-même, tant pis pour la douleur dans son flanc, et dévia au dernier moment la trajectoire d'une lame incurvée. Chaque mouvement lui coûtait un effort surhumain. Ses blessures ne pulsaient plus, elles lui déchiraient les chairs. Un mélange de glace et de feu qui menaçait de lui ouvrir le ventre en deux. Loustérine hurla à la mort. Fou de douleur, Rand tenta en vain d'analyser la situation.
« Je t'ai dit qu'il est à moi !»
cria le type au visage émacié, qui venait d'éviter un coup d'épée porté d'instinct par le jeune homme. Avec sa grimace grotesque, son énorme nez et ses oreilles en chou-fleur, le personnage ressemblait à un épouvantail créé pour effrayer les enfants. Mais ses petits yeux lançaient des éclairs meurtriers, et il faisait penser à une belette ivre de sang. Une belette enragée, prête à massacrer un léopard s'il le fallait. Et avec cette lame, ce monstre pouvait tuer une horde entière de léopards.
« À moi !»
cria de nouveau Padan Fain, alors que l'âne entrait à son tour dans la chambre.
« Tue l'autre type, le moche !»
Quand l'âne se détourna de Fain, Rand comprit qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Un grand type au teint blafard, qui vint presque avec enthousiasme se camper face à l'âne. Malgré ses yeux hagards, Thoram Riatin se lança dans le duel avec la grâce du maître escrimeur qu'il était. En artiste de la lame, l'âne l'affronta avec autant de fluidité et de férocité. Stupéfait de voir l'homme qui avait revendiqué le trône du Kaerien à Pharmading et dans une veste limée, Rand ne quitta cependant pas des yeux Padan Fain. Une éternité plus tôt, semblait-il, Moiraine avait parlé de l'ancien colporteur comme d'un suppôt de ténèbres, et bien pire que ça. Ignorant le duel qui continuait derrière lui et les gémissements de Loustérine, Rand avança, son flanc déchiqueté de l'intérieur, le faisant tituber comme un ivrogne. Très vif sur ses jambes, Fain tentait de passer sous sa garde, avec laquelle il avait à jamais blessé le flanc de son adversaire. De la pointe de l'épée, celui-ci le tenait de son mieux à distance. Sans crier gare, le maudit colporteur pivota sur lui-même et courut vers le fond de la pièce. Dès que Fain fut sorti, la douleur redevint tolérable, puis repassa au stade de l'élancement. Prudemment, Rand franchit la porte et découvrit que le colporteur ne cherchait pas à fuir. En haut de l'escalier qui menait au niveau inférieur, il attendait, sa lame incurvée à la main. Sur la poignée, le gros rubis reflétait la lueur des lampes posées sur des guéridons, aux quatre coins d'une pièce sans fenêtre. De nouveau en présence du colporteur, Rand connut les affres d'une souffrance qui lui parut assez forte pour faire exploser son cœur. Pour simplement tenir debout, il dut mobiliser toute sa volonté. Quant à faire un pas en avant, si impossible que ça lui paraisse, il réussit, et en fit même un autre.
« Je veux qu'il sache qui le tue, »
marmonna Fain. S'il foudroyait Rand du regard, il parlait tout seul, comme un dément.
« Je veux qu'il le sache, et s'il est mort, il cessera de hanter mes rêves. Oui, il sera obligé d'arrêter. »
Fain sourit et leva sa main libre. Leur manteau sous le bras, Thorval et Gedwin déboulèrent de l'escalier.
« Moi, je dis qu'on n'approchera pas de lui avant de savoir où sont les autres. »
maugréa Gedwin.
« Le M.A.L. nous tuera, si... »
D'instinct, Rand exécuta deux figures d'escrime. Fendre le vent et déployer l'éventail. Et Fain recula en criant, une joue entaillée, tandis que les deux revenants, une simple illusion, retournaient au néant. Comme s'il écoutait quelqu'un, l'ancien colporteur inclina la tête. Puis il cria de rage, se détourna et dévala les marches. Surpris, Rand hésita une fraction de seconde, avant de décider de suivre son ennemi. Mais quelqu'un le retint par le bras.
« Berger, la rue grouille de garde !»
annonça l'âne. Une tache rouge s'étalait sur le côté gauche de sa veste, mais son épée au fourreau indiquait qu'il avait pris le dessus sur Riatin. Un artiste supérieur à un autre dans la danse de la mort.
« Il est temps de remonter sur le toit si on veut filer. Maudite ville !
Un homme ne peut même pas descendre une ruelle avec son épée au poing !»
Sur cette saillie, Rand rengaina sa lame. L'âne ne sourit pas. À part pour Nineveh, il le faisait si rarement. Des cris retentirent, venant d'un niveau inférieur. Si les gardes arrêtaient Fain, il finirait sans doute au bout d'une corde. Le châtiment de tout meurtrier ici. Un sort bien trop doux pour lui, mais il faudrait faire avec, comme trop souvent, hélas. Dans le grenier, l'âne sauta, s'accrocha au rebord de la trappe et se hissa sur le toit. Rand hésita, doutant de pouvoir imiter le champion. En l'absence de Fain, la douleur avait disparu, mais son flanc lui faisait mal comme si on l'avait roué de coups de massue. Alors qu'il se ramassait sur lui-même pour essayer, l'âne passa la tête par le trou et tendit un bras.
« Berger, Ils le montreront peut-être pas tout de suite. Mais as-tu vraiment besoin d'être là pour le savoir ?
Rand prit la main du champion, se laissa hisser jusqu'à ce qu'il puisse s'accrocher au rebord, puis sortit à son tour sur le toit. Rampant, les deux hommes retournèrent à l'arrière du bâtiment. Même si la rue grouillait de gardes, ils avaient encore une chance de s'en sortir. Surtout s'ils pouvaient faire signe à Ninevé de créer une diversion. Alors que Rand atteignait le sommet du toit en pente, l'âne glissa sur l'ardoise humide, et les semelles de ses bottes produisirent un grincement aigu. Alerté par ce bruit, Rand se retourna et saisit le poignet de son compagnon, qui continua à glisser, entraîné par son poids. Aucun des deux hommes ne parvint à trouver une prise. Pas même le bord d'une tuile disjointe. Dans un silence de mort, les jambes de l'âne basculèrent dans le vide, puis le reste de son corps suivit. Les doigts gantés de Rand se refermèrent enfin sur quelque chose. Quoi, il l'ignorait, et il s'en fichait comme d'une guigne. Sa tête et une de ses épaules dans le vide, il tenait l'âne d'une main, avec à la clé une chute de quelques pieds, s'il ne parvenait pas à le remonter.
« Lâche-moi, »
dit le champion, très calme. Il leva sur Rand un regard plus froid que jamais.
« Allez, lâche-moi !»« Quand le soleil sera vert, mon vieux !»
Il suffisait de tirer un peu, pour que l'âne puisse s'accrocher au bord du toit et... La prise miraculeuse, quoi qu'elle fût, se brisa avec un bruit sec. Et les deux hommes furent aspirés par le vide.